Etur Jesus Christus.
Savoir s'abandonner au Seigneur dans l'adversité, c'est le conseil lancé hier par le pape aux fidèles avant la prière de l'Angélus. François a exhorté à ne pas avoir peur de suivre le Christ quand nous sommes dans la peur et l'incertitude. Les détails au début de ce journal. La guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza a un impact en Cisjordanie également. Les Palestiniens vivent dans une situation économique et sociale de plus en plus difficile. Reportage à suivre dans la ville de Hébron, la plus importante de Cisjordanie. À la une de ce journal également, la grogne qui prend de l'ampleur au Kenya. Les jeunes en particulier protestent en masse contre la hausse des taxes voulues par le gouvernement. Un appel à la grève générale a été lancé pour la journée de demain. Et puis dans notre dossier, gros plan ce matin sur la course aux armements nucléaires qui ne cesse de s'accélérer. Un sujet de préoccupation pour le Saint-Siège en particulier.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Face à l'adversité, vous laissez-vous submerger par l'agitation ce dimanche lors de sa catéchèse avant la prière de l'Angélus? Le pape a proposé plutôt de s'accrocher à Dieu. Il a appelé les fidèles qui vivent dans l'incertitude ou la peur à se tourner sans crainte vers le Christ qui apaisera toujours la tempête. Le compte-rendu de Marie Duhamel.
Jésus ne nous épargne pas les contrariétés, mais sans jamais nous abandonner, il nous aide à les affronter. François commentait ce dimanche l'évangile selon Marc, quand Jésus et ses disciples sont à bord d'une barque sur le lac de Tibériade et qu'une tempête fait craindre le pire. Jésus qui dormait se réveille, menace le vent et tout redevient calme. En fin de compte, dit François, même si Jésus a voulu mettre les disciples à l'épreuve, tester leur foi, au final, ces derniers sortent de cette expérience plus conscients de sa puissance, de sa présence parmi eux. L'épreuve effrayante les a rendus plus forts et mieux préparés à affronter les difficultés, y compris, dit le pape, la peur de s'aventurer à annoncer l'évangile jusqu'à la croix, jusqu'au martyr. Et François de souligner que Jésus fait vivre cette expérience à chacun, en particulier dans l'Eucharistie. Il nous rassemble, nous donne sa parole, nous nourrit, puis nous invite à prendre le large pour partager ce qui a été vécu, même quand c'est difficile. Et en surmontant avec son aide les épreuves, finit l'agitation, les incertitudes, les idées préconçues, dit François, nous apprenons toujours davantage à nous accrocher à lui, à avoir confiance en son pouvoir. Et cela permet, ajoute le pape, d'aller dire à tous, avec courage et un grand cœur, que le royaume des cieux est présent et qu'avec Jésus à nos côtés, nous pouvons le faire grandir ensemble, au-delà de toute barrière.
Un compte-rendu signé Marie Duhamel. Et à l'issue de l'Angélus, le pape a lancé un nouvel appel à la paix au Moyen-Orient, en Ukraine ou encore en République démocratique du Congo, exhortant à des solutions politiques au conflit et invitant à la perspicacité de ceux qui sont au pouvoir, qui devraient éviter toute action. Toute parole susceptible d'alimenter davantage le conflit. Au Proche-Orient, justement, la guerre continue sans relâche, en particulier dans la bande de Gaza. Les combats à Rafah, au sud de l'enclave, sont sur le point de se terminer, a néanmoins assuré hier Benjamin Netanyahou. L'objectif de l'armée israélienne est de récupérer les otages et de déraciner le régime du Hamas à Gaza, a encore expliqué le Premier ministre israélien. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, est lui arrivé aux États-Unis hier pour s'entretenir avec des hauts responsables américains. Des entretiens sur fond de tension avec Washington. Cette guerre, on le sait, a provoqué des dégâts considérables à Gaza. Plus de 37 000 morts officiellement, certainement sans doute beaucoup plus. Elle a aussi aggravé une profonde crise économique et sociale pour les Palestiniens, notamment en Cisjordanie. À Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie, l'économie tourne au ralenti et la pauvreté explose. Le reportage de notre envoyé spécial Inès Gilles.
Dans la vieille ville d'Hébron, des familles défilent, un seau à la main. Elles viennent chercher un repas chaud auprès de la taqiya Ibrahimia. Dans la tradition islamique, une taqiya est une fondation caritative créée pour offrir de l'aide aux plus démunis. Depuis le début de la guerre, chaque jour, 2500 repas sont distribués. Selon Ataya El-Jibrin, chef cuisinier dans la fondation, la pauvreté explose à Hébron.
Depuis le déclenchement de la guerre, il y a 2 à 3 fois plus de personnes, surtout des Palestiniens, qui travaillent en Israël, car ils n'ont plus de source de revenus.
La guerre impacte durement l'économie de la Cisjordanie, fortement dépendante d'Israël en matière d'emploi, de commerce et de devises. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 300 000 Palestiniens ont perdu leur emploi. Parmi eux, la moitié travaillait en Israël. C'est le cas de Nidal, cuisinier à Ashdod pendant 2 ans. Depuis le 7 octobre, comme la plupart des Palestiniens, son permis de travail a été annulé par Israël.
Je vends des plats à emporter sur le marché.
C'est difficile. Je n'ai pas pu payer les loyers des deux derniers mois.
Avec la guerre qui dure à Gaza, la Cisjordanie continue de s'enfoncer dans la crise socio-économique. Inès Gilles, à Hébron, pour Radio Vatican.
La guerre qui touche aussi le Liban voisin, les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah chiite sont quotidiens et menacent un pays déjà très fragilisé. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État du Saint-Siège est arrivé hier à Beyrouth. Le cardinal Parolin restera au Liban jusqu'à jeudi prochain. Il doit s'entretenir avec les autorités du pays, le patriarcat maronite, des membres de l'église locale ou encore des patriarches et chefs religieux. Le Caucase, de nouveau ensanglanté par des attentats, des hommes armés ont attaqué hier à plusieurs églises orthodoxes, une synagogue ou encore un poste de contrôle de la police dans cette région du sud de la Russie. Un prêtre orthodoxe a été tué ainsi qu'au moins 15 policiers. On ignore pour l'instant l'origine de ces attaques. Ouvrons à présent une page africaine au Kenya où la mobilisation de la jeunesse continue contre le projet de loi de finances publiques qui prévoit la mise en place de nouvelles taxes. La semaine dernière, des milliers de jeunes Kenyans sont descendus dans les rues à travers le pays pour demander son annulation. Le président William Ruto s'est dit prêt à dialoguer alors que de nouvelles actions ont déjà été annoncées par les manifestants pour les prochains jours. Notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir, a rencontré ces jeunes manifestants.
Un rejet complet du projet de loi de finances publiques, c'est ce que demandent les jeunes au sein du mouvement de contestation. Ils sont surnommés la révolution Gen Z, qui désigne ceux nés entre 1997 et 2010. Kanana Kome en fait partie. Elle a 20 ans, elle est étudiante et a rejoint le mouvement.
Cette loi prévoit des taxes trop lourdes pour les Kenyans. Et ça crée une forme d'oppression, une qualité de vie médiocre pour le peuple, pour ceux qui ne sont pas aussi fortunés que ceux au pouvoir.
Après avoir participé aux grandes manifestations de la semaine dernière, Milan, un jeune de 24 ans, porte le même message.
Aujourd'hui, lorsque nous finissons nos études, nous ne trouvons pas d'emploi. Si nous ne nous battons pas aujourd'hui, les prochaines générations seront dans des situations encore bien pires.
Hier matin, des jeunes se sont rassemblés en signe de protestation à Nyahururu, à 200 km au nord de Nairobi. C'est là où le président William Ruto assistait à sa messe dominicale. Le chef de l'État s'est exprimé publiquement et pour la première fois depuis le début du mouvement.
Nos jeunes sont mobilisés pour participer aux affaires de notre pays. Je veux leur dire, nous allons dialoguer avec vous afin de pouvoir identifier vos problèmes et de travailler ensemble en tant que nation.
Les manifestants ont en tout cas déjà appelé à de nouvelles mobilisations mardi et jeudi. Nairobi, Alban Terroir pour Radio Vatican.
Et une grève générale au Kenya a été appelée pour la journée de demain. Le Kenya, qui après des semaines de blocage en raison de la justice, va pouvoir envoyer un millier de policiers à Haïti. Ils doivent participer à une mission de l'ONU pour faire revenir la sécurité dans le pays des Caraïbes. Les policiers kenyans doivent partir demain. Une aide qui sera bienvenue pour les Haïtiens alors que la violence est toujours endémique dans le pays. Les précisions de notre correspondant régional, Franz Emmanuel.
Chaque jour amène son lot de chiffres et de statistiques visant à démontrer une fois de plus combien Haïti sombre à chaque instant davantage dans le chaos. Dernière en date, le nombre de viols multiplié par 5 depuis le début de l'année. Aussi, l'annonce de l'arrivée imminente d'une mission multinationale de l'ONU représente une vraie bouffée d'oxygène sur place. 1000 policiers en provenance du Kenya devraient débarquer cette semaine en Haïti. Sa mission ? Combattre la violence des gangs aux côtés de personnel envoyé par plusieurs autres pays, tels le Bénin, le Tchad, le Bangladesh ou encore les Bahamas et Barbade. L'arrivée de cette force multinationale continue de faire débat à Port-au-Prince, traumatisé, il est vrai, par une occupation états-unienne de près de 20 ans en 1915. Mais aujourd'hui, la capitale haïtienne est à 80% aux mains de bandes criminelles commettant meurtres, pillages, enlèvements contre rançon et agressions sexuelles. Haïti, seul, ne sait pas faire face à cette situation qui a plongé le pays dans une extrême misère et une violence sans équivalence. Fort-de-France, Franz Emmanuel, Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un mot sur les États-Unis où la course à la Maison-Blanche se poursuit. Joe Biden, le président démocrate sortant, débattra avec son adversaire et prédécesseur Donald Trump. Ce sera jeudi prochain. Deux visions d'une Amérique coupée en deux qui devraient s'affronter devant des millions de téléspectateurs. C'est un sujet majeur pour la sécurité et l'ordre mondial. La course à l'armement nucléaire est loin de s'essouffler. En 5 ans, les dépenses liées aux armes nucléaires ont explosé, plus 30%. 91 milliards de dollars ont été investis en 2023 par les 9 puissances qui en sont dotées. Arsenaux modernisés, nouvelles armes déployées. 2 rapports émis lundi dernier par le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, et l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, en font le constat alarmant. La part américaine dans ses dépenses est écrasante, suivie de la Chine et de la Russie. Viennent ensuite le Royaume-Uni et la France. En première ligne pour un désarmement intégral comme impératif moral et humanitaire, le Saint-Siège n'a de cesse de soutenir l'interdiction universelle des essais nucléaires, de prôner le dialogue plutôt que la dissuasion. Benoît Pelopidas est chercheur associé à Stanford. Il est le fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires de Sciences Po, le premier programme universitaire français de recherche indépendante sur le phénomène nucléaire. Il nous explique ce matin, il revient ce matin sur cette hausse constante des budgets alloués aux armements de ce type, revenant d'abord sur notre condition de vulnérabilité nucléaire.
Les États dotés d'armes nucléaires déploient une rhétorique de la dissuasion nucléaire présentée comme une rhétorique de la protection. Donc la première chose à rappeler, c'est que depuis le couplage de missiles balistiques avec des explosifs thermonucléaires, il n'est plus possible de protéger nos populations contre une explosion nucléaire, qu'elle soit délibérée, inadvertante ou accidentelle. Donc la raison pour laquelle on se pose cette question sur l'augmentation des budgets des armes nucléaires, c'est pas simplement parce que c'est des gros budget. C'est d'abord parce que il n'y a plus de protection possible d'une part contre ce type d'explosion et d'autre part on a pu démontrer que dans l'histoire nucléaire jusqu'à présent, dans certains cas particuliers, je pense à la crise de Cuba mais aussi certains épisodes au début des années 80, nous avons évité des explosions nucléaires non désirées, non pas par succès des pratiques de contrôle, mais bien par chance, par désobéissance ou défaillance technique, ou par des variables tierces qui ne sont pas explicables par le succès des pratiques de contrôle. À partir de ça, il faut se souvenir des limites du contrôle que nous avons sur ces systèmes d'armes et de la tendance des dirigeants et de ceux qui les contrôlent à surestimer le contrôle que nous avons sur ces systèmes d'armes.
Comment la géopolitique liée à ces armements nucléaires évolue-t-elle entre acteurs historiques et émergents ?
Les États-Unis et la Russie conservent plus de 90% des têtes nucléaires sur la planète. Par contraste avec ça, même les arsenaux nucléaires de petite taille sont de taille suffisante pour causer la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Et c'est qu'on a peut-être tendance à se dire que ces arsenaux sont en taille tellement importants qu'il n'est pas possible de les démanteler. Dans ce cas-là, il faut se souvenir d'abord que pendant la décennie entre 1986 et 1996, nous avons démantelé plus de têtes nucléaires que ce qu'il en reste aujourd'hui. Et que par ailleurs, même sans progrès technologique, nous sommes en mesure, si la volonté politique était là, de démanteler la totalité des arsenaux qui restent en moins de 10 ans. Ce que je vous dis là, simplement, c'est qu'il n'y a pas d'impossibilité matérielle au démantèlement.
Quelles peuvent être véritablement les conséquences de ces dépenses croissantes sur la doctrine nucléaire actuelle ?
Le traité d'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur au début de l'année 2021 et qui n'est signé par aucun État doté d'armes nucléaires, révèle 2 visions antagonistes. D'un côté, vous avez une coalition d'États qui dit « les armes nucléaires sont une garantie de sécurité nécessaire au niveau national et international. De l'autre côté, vous avez une coalition d'États, signataires du traité d'interdiction, qui dit que les armes nucléaires sont un problème de sécurité nationale et internationale qui nous mettent tous en situation d'otage de la possibilité de la violence nucléaire future, mais aussi des conséquences de la violence nucléaire passée, puisque les essais nucléaires, ne l'oublions pas, ont eu des conséquences considérables. C'est sur cette ligne de fracture-là que l'avenir des politiques nucléaires vont se jouer. Sur le plan éthique, ça veut dire que d'un côté, vous avez une coalition qui dit « Au nom de notre idée de la sécurité nationale et internationale, nous nous présentons comme obligés de préparer, de planifier et d'annoncer au monde que nous conduirons ce qui relève d'un meurtre de masse de population civile. » C'est ça, en fait, l'usage d'armes nucléaires. Une autre coalition qui, elle, dit « Quelles que soient les conséquences, à aucun moment, nous ne nous préparons où nous nous rendrons capables de commettre un crime de masse, même si la conséquence de ça est la mise en péril de notre sécurité nationale. Et c'est sur le sort de l'affrontement entre ces deux visions de la politique et de l'éthique que la forme du monde va se décider.
Interrogé par Delphine Allaire, Benoît Pelopidas, chercheur associé à Stanford, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires de Sciences Po, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera à 13h tout à l'heure en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente journée.